Chers amis mélomanes, amateurs d'opéra, bonsoir. Christian Segarici, chef d'orchestre, et Nancy Zautier, notre très compétente metteur en onde, vous présente ce soir l'émission mensuelle sur l'opéra. Opéra Gora. Régalons-nous des grands chefs-d'œuvre de l'opéra que nous ont laissés les grands génies du passé. L'année passée, nous avions fait un tour général des grands compositeurs en écoutant le plus possible des titres marquants de leurs œuvres. Mais cette année, je vous propose d'approfondir la connaissance de ces chefs-d'œuvre en ne traitant qu'un seul titre par émission et de le faire à partir de grands cycles dévolus aux grands maîtres que nous avions évoqués l'an passé, en les survolant. Nous commençons donc un grand cycle Puccini, et ce soir, nous évoquerons sa célébrissime Tosca. Mais auparavant, rappelons brièvement tous les opéras de Puccini. Après quelques essais infructueux, comme Edgar ou I Villi, qui ont connu des succès d'estime à la fin du XIXe siècle, Puccini produit à partir des années 1890 son œuvre maîtresse. Cinq grands opéras qui feront sa gloire et sa fortune. Cinq grands chefs-d'œuvre toujours inscrits au panthéon des titres d'opéra, encore joués dans le monde entier, et semble-t-il de plus en plus appréciés par un public toujours plus avide de drames musicaux au romantisme puissant et à l'accès facile. Point n'est besoin d'être un grand musicologue pour apprécier ces chefs-d'œuvre. Il suffit de suivre les belles mélodies et de se laisser guider par l'émotion. Le premier titre à succès est Manon Lescaut, d'après le roman de l'abbé Prévost, ouvrage qui a également inspiré Massenet, qui lui aussi a composé une sublime Manon. Puis, nous avons la célèbre trilogie fin de siècle, La Bohème, d'après les scènes d'Henri Murgère, Madame Butterfly, d'après une pièce de David Belasco, et enfin La Tosca, d'après la pièce de Victorien Sardou. Et puis pour terminer, le conte oriental inachevé, Turandot, terminé par son élève, le comte Alfano. Lorsque Puccini vit la pièce de théâtre de Victorien Sardou, il eut le coup de foudre et voulut immédiatement en faire un opéra. Il avait été subjugué par cette Tosca, femme libre et impétueuse, qui tue par amour et puis se suicide. Mais il y avait deux obstacles. Le premier était qu'il fallait convaincre Victorien Sardou de revoir sa pièce, de l'avoir passée de 5 actes en seulement 3, pour des besoins musicaux bien sûr. Et le second obstacle était que l'éditeur Ricordi, qui déjà avait acheté les droits à Victorien Sardou, eh bien, avait déjà chargé un compositeur de deuxième ordre, un certain Franchetti, inconnu, pour en faire un opéra. Mais Puccini, enthousiaste et très convaincant, sut arriver à ses fins. Et l'opéra lui fut attribué et il le créa à Rome en 1900. Puis à Paris en 1903, sous la direction d'André Messager, le compositeur de Véronique. Victorien Sardou était connu surtout pour sa pièce célèbre « Madame sans gêne ». Et en plus, Sarah Bernhardt était à la fois une actrice et un metteur en scène formidable qui avait fait triompher la pièce « La Tosca » au théâtre. Alors, il ne restait plus sur ses bonnes lancées qu'à faire triompher maintenant l'opéra. Ce fut fait, et la Tosca connut très vite un succès mondial. L'intrigue de l'opéra se passe à Rome, en 1800. Les trois principaux chanteurs sont Tosca, soprano, qui dans la pièce est aussi une chanteuse, une grande diva. Son amant, c'est le ténor Mario, qui est un célèbre peintre, Mario Cavaradossi. C'est un sujet révolutionnaire, ennemi du régime royal et ennemi du pape. Il est poursuivi par le sinistre baron Scarpia, qui est le chef de la police du Vatican, et celui-ci veut obtenir les faveurs de la très belle Tosca en échange de la libération de Mario après avoir emprisonné celui-ci pour raison d'État. Le premier acte se passe dans l'église Sant'Andrea della Valle, à Rome, où Mario peint une Marie-Madeleine en s'inspirant d'une belle blonde qui vient tous les jours prier pour la libération de son frère, Angelotti. C'est la basse de l'opéra. Celui-ci est emprisonné par Scarpia, donc le terrible Scarpia, le chef de la police, comme ennemi du régime. Et cette belle blonde, eh bien, c'est la marquise Attavanti, qui est la sœur d'Angelotti. C'est un rôle muet, mais on la voit figurer dans l'église et venir prier et également aider son frère à fuir. Car son frère, qui s'évadera du château Saint-Ange, de sa prison, passera par l'église pour prendre des vêtements et se déguiser en femme. Pour l'instant, le peintre compare les yeux noirs de Tosca aux yeux bleus de la belle marquise, tout en peignant le portrait. Et nous sommes gratifiés d'un air merveilleux pour ténor. Recondita harmonia, ce qui signifie harmonie secrète. Écoutons Pavarotti comparer ces deux beautés, donc la brune et la blonde. Recondita harmonia.
Angelotti, le prisonnier de Scarpia, vient de s'enfuir du château Saint-Ange. Il se réfugie rapidement dans l'église où sa sœur lui a préparé sa fuite en déposant un déguisement. Et Mario lui indique une cachette sûre dans sa villa, au fond du puits, qui a une cachette secrète dans le jardin. Arrive alors Tosca, folle de jalousie, car ça fait un moment qu'elle appelle son fiancé. Mario, Mario, Mario. Et Mario ne répond pas. Il est occupé, bien entendu, avec Angelotti pour l'aider à s'enfuir. Elle entre furieuse, fouille partout. Ouh, elle a respiré un parfum de femme. Elle est d'une jalousie folle. Puis, en voyant le tableau, elle reconnaît la belle marquise Attavanti. Sa jalousie redouble. Alors, Mario serait donc l'amant de la marquise ? Elle est furax. Elle questionne, s'énerve, invective, pleure et veut peindre en noir les yeux bleus du portrait. Le pauvre Mario, complètement innocent, s'amuse de cette jalousie si féminine. Et Puccini nous écrit un merveilleux duo pour soprano et ténor. Écoutons Jonas Kaufmann aux prises avec la jalousie d'Angela Gorgiou. Mario, Mario, son qui. Et l'enregistrement est de Sondra Radnowski et Piotr Perskala. Un merveilleux duo d'amour et de jalousie, ça va toujours ensemble.
Thank you.
voilà que Scarpia arrive, avec ses sbires à la recherche d'Angelotti, le prisonnier évadé. Il fouille partout et finit par trouver un indice fatal. L'éventail que la marquise Attavanti a laissé tomber pendant la fuite. Et Scarpia y reconnaît son emblème. Ah, c'est l'éventail de la marquise. Il y conclut que cette marquise aurait aidé Mario pour réaliser la fuite d'Angelotti. Et il va se servir de cet éventail pour décupler la jalousie de Tosca, en déclarant qu'il a la preuve matérielle que Mario et la marquise sont amants et que Mario est un ennemi du régime, comme la marquise. Il déverse le désespoir dans le cœur de Tosca grâce à l'éventail, comme Iago avait fait avec le mouchoir d'Othello pour accuser l'innocente Desdémone. Tosca se lamente, jure de se venger, mais voilà que c'est l'heure de la grand-messe et qu'entre le cardinal et toute la maîtrise pour célébrer l'office. Et alors Scarpia manigance son horrible projet. Confondre Mario comme ennemi du Saint-Régime papal, l'emprisonner, puis feindre de le libérer en échange des faveurs de la belle Tosca qu'il désire depuis toujours. Et c'est un savant mélange de délire sexuel du terrible chef de la police avec les accents latins du Te Deum, de la messe. Ces deux ambiances se chevauchent admirablement. Écoutons cette merveille par le regretté Horotowski, qui est malheureusement disparu maintenant depuis 2 ou 3 années d'un terrible cancer foudroyant. Tres biri et le Te Deum, ponctué par les cloches et au loin les coups de canon. Écoutons.
Respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un fisso profeti.
Attendi il contegno,
palazzo Farnese.
Oh.
Le deuxième acte se passe au palais Farnèse. C'est le soir. Scarpia dîne copieusement tout seul, tout en écoutant par la fenêtre ouverte Tosca qui chante une cantate dans la salle de concert toute proche. Arrive alors Spoletta, le chef des sbires, qui vient apprendre à Scarpia qu'Angelotti et Mario ont été retrouvés. Angelotti s'est suicidé et Mario a été fait prisonnier. Scarpia fait alors conduire Mario à la torture et il convoque Tosca pour qu'elle entende les cris de son supplicié d'amoureux. Tosca supplie Scarpia d'arrêter la torture et promet de céder aux exigences de ce dernier. Scarpia déclare « Je te donne sa vie en échange d'une heure de plaisir. » Tout cela magistralement mis en musique dans un grandiose duo d'une violence inouïe. Écoutons Rosalina Moshkova et Alexandre Kronev. Duo Ed ora parliamo d'amicizia.
Thank you.
terrifiante, plus proche de l'expressionnisme que du vérisme propre à Puccini. Tout est fort, angoissant, dissonant, c'est très moderne et merveilleux. Et c'est très difficile à diriger, réservé aux chefs d'orchestre très expérimentés à cause des changements abrupts de vitesse et surtout à cause des contrastes permanents de l'ambiance musicale et dramatique. Tosca a fini par céder et a promis d'appartenir à Scarpia, mais avant, elle se confie à la Madone dans sa sublime prière. Prière connue de tous, prière pleine de dévotion, mais aussi de reproches et d'incompréhension. Pourquoi elle, qui a toujours fait le bien, est-elle contrainte à cette infamie ? A-t-elle mérité cela ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Écoutons l'incomparable Maria Callas, vici d'arte, vici d'amore. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour, j'ai fait le bien. Pourquoi cette punition, Seigneur ? Écoutons.
Sacri, Christi sacri, Christi.
immortel qui reprend la mélodie de l'arrivée de Tosca au premier acte. Mais au moment de se livrer à la débauche de Scarpia, elle aperçoit un couteau sur la table du dîner et elle le plonge dans le cœur de Scarpia. Et alors, les trois accords majeurs qui ont servi de support à tout l'opéra se terminent maintenant dans le mode mineur, le mode lugubre de mi mineur. Et la mise en scène de Sarah Bernhardt s'impose toujours de nos jours. C'est devenu une tradition. Tosca dépose les chandeliers de part et d'autre du corps de Scarpia mourant et le crucifie devant sa tête. Et en parlant, absolument a cappella, sans support musical de l'orchestre, elle dit « Et dire que devant lui, tout Rome tremblait. » Et nous voici au troisième acte, qui se passe sur la plateforme du château Saint-Ange, où Mario doit être fusillé. Mais Scarpia, souvenez-vous, a promis un simulacre d'exécution. Les balles seront à blanc. Tosca y croit. Elle a bien tort. Et elle se dirige à l'aube vers le château. Pendant ce temps, Rome se réveille, l'aurore arrive et l'on entend un jeune pâtre qui chante au loin parmi les sonnailles des troupeaux et les cloches de Rome qui se réveille. Puccini est monté sur le mont Piccio qui surplombe Rome pour étudier justement ces cloches lointaines et les restituer dans ce délicieux matin impressionniste. Écoutons Von Karajan nous en restituer la poésie. Voici ce lever du jour sur Rome. Thank you.
Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cieli attende.
No, ma l'ultima grazia io vi richiedo.
Se posso,
io lascio al mondo una persona cara.
Une esthétique proche du troisième acte de la bohème et de son lever du jour à la barrière d'enfer sous la neige à Paris. Et Tosca, toute heureuse, maintenant que Scarpia est mort, elle va à la rencontre de son amoureux, de son amant. Et ils se renouvellent leur amour. Et Tosca lui recommande surtout « Fais bien attention, hein. Fais bien le mort au moment de l'exécution. » Évidemment, évidemment, il le fera. Le peloton prend place et Mario, lui, il sait bien que Scarpia, en réalité, a demandé une vraie exécution et qu'il va mourir. Et c'est le sommet de la partition, l'air que tout le monde connaît. Le fameux lamento, le lamento de la Tosca, qui termine l'opéra et où Mario chante son hymne à la vie. L'heure est enfuie et c'est mon dernier jour. Et pourtant, je n'ai jamais autant aimé la vie. Les soldats font feu à balles réelles. Mario meurt. Tosca se précipite. Elle comprend alors la trahison de Scarpia, qui lui avait prédit « Des profondes amours, c'est la misère profonde. » Et alors, elle se jette dans le vide du haut du château Saint-Ange, en hurlant « À toi, Scarpia, rendez-vous devant Dieu. » L'orchestre ponctue avec la phrase du lamento pour terminer l'opéra. Mais auparavant, Nancy et moi-même, nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures musicales. Le mois prochain, terminons avec « E luce van le stelle », chanté bien sûr par Pavarotti. Et les étoiles brillaient. Bonsoir.
Di per sempre il sogno mio. vita